souvenirs de famille. André-François Poncet, de l'Académie française et de l'Académie des sciences morales et politiques, ancien chancelier de l'Institut de France, est évoqué aujourd'hui par son fils, Jean-François Poncet, ancien ministre des Affaires étrangères, aujourd'hui sénateur.
Mon père était un personnage impressionnant, d'assurance, de culture, un conteur extraordinaire. Par conséquent, oui, mon père a toujours été présent dans ma vie, un peu comme un juge, pas toujours forcément bienveillant, volontiers critique, mais j'étais proche de mon père et il avait été satisfait de me voir entrer à l'école d'administration. Et le début de ma carrière, il n'a pas vécu très longtemps, de sorte qu'il n'a pas été plus là quand je suis devenu ministre des Affaires étrangères. Il n'était pas là quand j'ai publié mon livre de souvenirs, 37 Quai d'Orsay. Par conséquent, il y a beaucoup de choses qu'il n'a pas connues. Mais oui, mon père a exercé une grande influence, par son exemple, plus que par ses conseils.
L'académicien André-François Poncet, né le 13 juin 1887 à Provins, mort le 8 janvier 1978, fut élu à l'Académie française en 1952 au fauteuil du maréchal Pétain. Il fut élu pour la seconde fois à l'Institut en 1961 comme membre de l'Académie des sciences morales et politiques et la même année comme chancelier de l'Institut de France. Normalien, germaniste éminent, André-François Poncet fut professeur, journaliste, écrivain, homme politique, avant d'être nommé ambassadeur de France à Berlin de 1931 à 1938, puis ambassadeur à Rome de 1938 à 1940. Il fut arrêté par la Gestapo et déporté en Allemagne de 1943 à 1945. Après la guerre, nommé haut-commissaire puis ambassadeur en République fédérale d'Allemagne à Bonn, il fut l'un des artisans de la réconciliation franco-allemande et de la naissance de l'Europe. André-François Poncet a écrit de nombreux ouvrages historiques et autobiographiques qui ont marqué leur temps, parmi lesquels on peut citer « Études sur les affinités électives de Goethe »,« Ce que pense la jeunesse allemande », Souvenirs d'une ambassade à Berlin, de Versailles à Potsdam, Carnet d'un captif, au palais Farnèse, au fil des jours, Stendhal en Allemagne. L'on se souvient aussi de lui comme journaliste et comme éditorialiste au Figaro et à l'Opinion. Restez en compagnie de Jean-François Poncet, fils de l'académicien André-François Poncet, qui évoque pour nous l'homme public et l'homme privé et ses souvenirs personnels.
Mon père était originaire d'une famille de juristes qui était originaire de Paris. Et son père était un magistrat qui a terminé à la cour d'appel de Paris, mais qui avait fait le tour, dans le cours de sa carrière, des petites cours de la région parisienne. C'est ainsi qu'il est né à Provins, parce que son père y était magistrat. Il en parlait un peu, mais pas dans le détail. Et comme il n'a pas laissé de biographie, d'autobiographie, je connais assez mal ses premiers pas dans la vie. Ceci dit, il y avait quelque chose qu'il disait souvent, qu'il rappelait souvent, c'est qu'il savait lire très jeune, je crois, 4 ans. Quand il est arrivé au baccalauréat, il lui fallait une licence pour avoir le droit de se présenter. Il était trop jeune. Et cette autorisation ne lui a pas été donnée. De sorte que son père l'a envoyé en Allemagne, dans une famille d'un professeur allemand. Et c'est là que mon père a appris, à très jeune âge, l'allemand. Et il a toujours dit que c'était le fait d'avoir su lire à 4 ans et d'avoir de ce fait disposait d'une année qui avait été passée en Allemagne, où il avait appris l'allemand, avait influé sur l'ensemble de sa vie.
À propos de l'école normale supérieure.
Il a, je crois, beaucoup aimé l'école normale supérieure. Il avait une, ce qu'on appelait une turne, c'était la chambre des élèves, et qu'il avait, avec un de ses camarades, décoré, peint, ce qui avait fait beaucoup parler à l'école normale supérieure. Et oui, dans le cours de ma vie, j'ai rencontré pas mal de ses amis qu'il avait connus à ce moment-là. Jules Romain était avec lui, et Jules Romain venait souvent à la maison. Et c'est un homme assez impressionnant parce qu'il était terriblement silencieux et on n'imaginait pas qu'il puisse être l'auteur de cette série quand même assez extraordinaire des hommes de bonne volonté.
L'influence de la Première Guerre mondiale.
C'est probablement d'un côté la vie des tranchées. Mon père avait assimilé au cours de ces années les éléments, la quintessence de la culture populaire. Il en avait acquis le vocabulaire, le caractère direct, simple. Et elle a également influé sur sa carrière de façon très importante puisqu'il a été blessé à Verdun. Il a été rapatrié, enfin replié, soigné, et il a ensuite été envoyé à l'ambassade de France à Berne comme attaché, comme, pas dans un poste très important, mais avec une mission qui était de dépouiller la presse quotidienne allemande et de voir ce qui, dans cette presse, pouvait avoir une importance dans la conduite de la guerre. Et ça a développé chez lui aussi un goût du journalisme qui, après la guerre, l'a conduit à renoncer à l'enseignement. Il avait, évidemment, en quittant l'école normale supérieure, il était agrégé d'allemand et il avait enseigné à Montpellier. Après la guerre, il n'a plus voulu reprendre son métier d'enseignant. Il voulait une vie plus active, plus mêlée aux événements. Et c'est ainsi qu'il est devenu journaliste. Et le journalisme, comme souvent, l'a conduit à la politique, puisqu'il s'est présenté en 1924, si je ne me trompe, sur une liste dont le dirigeant était Paul Reynaud. C'est une liste de centre droit. Et la politique, il a fait deux mandats de député. Et c'est dans le cours du second mandat qu'il a été nommé ambassadeur de France à Berlin, à cause de sa parfaite maîtrise de l'allemand et de sa familiarité avec la culture allemande. Il avait fait une thèse très remarquée sur les affinités électives chez Goethe, et il connaissait admirablement Goethe, et il parlait un allemand châtié, qui impressionnait beaucoup Hitler notamment. Dans les souvenirs d'une des personnes qui a été à côté d'Hitler pendant les derniers mois dans le bunker à Berlin, raconte que Hitler, qui se confiait, avait remarqué, avait parlé de mon père, dont il se souvenait, pour dire qu'avec André-François Poncet, il ne parlait jamais de littérature allemande, parce qu'il en connaissait beaucoup plus que moi. Je conserve évidemment les souvenirs d'un enfant, puisque quand mon père a quitté, après la conférence de Munich, a quitté l'Allemagne, quitté Berlin, pour être nommé à Rome, ce qu'il avait lui-même sollicité, c'était une Allemagne qui retentissait de tout le cérémonial du Troisième Reich, et l'ambassade de France étant située au cœur de Berlin, tous les défilés du Troisième Reich passaient sous les fenêtre de l'ambassade. Et je me souviens de ces cortèges aux flambeaux qui n'en finissaient pas. Des marches militaires qu'on voyait aussi avec les Allemands qui faisaient étalage de leur nouveau matériel militaire. L'incendie du Reichstag est mon premier souvenir d'être humain. L'ambassade de France à Berlin est toute proche du Reichstag. Et à l'époque, dans l'ancienne ambassade qui a été détruite pendant la guerre, on pouvait apercevoir l'arrière du Reichstag. Et un soir, en 1933, de ma chambre d'enfant, alors qu'on me mettait au lit, j'ai aperçu le ciel rougeoyant du fait de l'incendie du Reichstag. Et ce souvenir, qui était donc mon premier souvenir d'être humain, m'a conduit après à tenter de regarder et de comprendre ce qui s'était passé, puisque c'est cet incendie et l'énorme fracas politique qui en est résulté, qui a permis à Hitler et aux nazis de pas prendre le pouvoir, parce qu'il était chancelier, Hitler, mais de mettre l'Allemagne complètement au pas et de détruire le parlementarisme de Weimar et d'instaurer une dictature qui était celle des nazis, des SA, des SS. Mon père, à cause de sa parfaite connaissance de l'allemand, mais aussi un peu à cause de son esprit de normalien. Mon père était quelqu'un qui faisait des calembours à longueur de journée, qui avait un esprit qui était celui des normaliens, mais qu'il était capable de décliner en allemand. Et il lançait sur le régime nazi des mots qui faisaient souvent le tour du monde. C'est lui qui avait dit qu'Hitler était le fils naturel de Charlie Chaplin et d'Anne d'Arc. Mon père avait clairement perçu, d'ailleurs, c'était pas très difficile, la montée du nazisme et ce que le nazisme triomphant pouvait impliquer comme danger de guerre. Et il avait prévenu le gouvernement français, les gouvernements français, de façon répétée, dans sa correspondance diplomatique et quand il venait à Paris. Alors il n'était pas convoqué à Paris parce que je crois qu'il a été convoqué pendant les 8 années qu'il a passées à Berlin. Il n'a été convoqué qu'une seule fois. Mais il prenait sur lui d'aller à Paris sans y être convoqué. Comme il avait été membre du gouvernement, il connaissait tout le personnel politique français. Et quand il allait à Paris, il parlait et informait les cadres de la Troisième République de la situation telle qu'il la voyait. Malheureusement, ces mises en garde n'ont servi à rien. Alors on peut se demander pourquoi. Une des réponses, à mon avis la plus convaincante, était que les gouvernements français, qui duraient rarement plus de 6 mois, ne pouvaient pas, ne voulaient pas prendre les mesures que cette situation aurait imposé. Et les généraux eux-mêmes ne croyaient pas qu'il y aurait une vraie menace allemande. Ils n'avaient pas du tout saisi ce qui s'est passé, c'est-à-dire ce que le général de Gaulle, colonel de Gaulle, avait parfaitement compris, c'est-à-dire la guerre mécanique appuyée par une aviation et les Stuka, les aviations en piqué. Tout ça a été parfaitement connu de mon père, qui avait informé les généraux, qui considéraient que ces menaces étaient un peu inventées par l'ambassadeur de France à Berlin et qu'en réalité, l'armée française était parfaitement capable d'arrêter une attaque allemande.
Ambassadeur à Rome.
Il y a plusieurs raisons. La première raison est que l'atmosphère de Berlin et du Troisième Reich était une atmosphère un peu obsédante. Et qu'après presque 8 années d'ambassade, après avoir été le doyen du corps diplomatique en Allemagne, qu'il mettait en rapport avec tous les dirigeants nazis, il aspirait à autre chose. Et le normalien qu'il était, l'humaniste, doté d'une vaste culture, était attiré par Rome. Et je crois que ça a joué. À ça, on peut évidemment ajouter aussi qu'à l'époque, l'alliance entre l'Italie et l'Allemagne n'était pas aussi solide que, d'ailleurs, elle n'a jamais été très solide. Mais on pouvait espérer convaincre les Italiens, notamment Ciano, avec lequel mon père avait eu des relations difficiles au début, mais bonnes après, et qui était le gendre de Mussolini. Par conséquent, on pouvait espérer le mettre en garde contre les dangers du pacte avec l'Allemagne.
À propos de la guerre,
le souvenir que j'en ai, c'est d'abord évidemment l'arrestation de mon père, qui a été arrêté vers le milieu de la journée par Klaus Barbie, qui était le chef de la Gestapo du sud de la France, avec résidence à Lyon, qui était arrivé avec 3 ou 4 gestapistes. Et ils avaient fait irruption à l'heure du déjeuner dans la salle à manger, où nous étions en train de déjeuner, et l'avait embarqué en l'espace de 5 ou 6 minutes. On lui a juste laissé le temps de boucler une valise. Et puis il est parti, d'ailleurs, dans le fond de la voiture. Il y avait quelqu'un qu'ils avaient cueilli juste avant, qui était Albert Lebrun. Malheureusement, Albert Lebrun était déjà âgé. Je crois qu'il n'était plus tout à fait en possession de tous ses moyens. Et il n'a pas été retenu, il a été relâché très vite, mais pas mon père. Et mon père a fait 2 ou 3 résidences en captivité. L'une, c'est au château d'Itter, un château en Autriche, dans le Vorarlberg, où il a retrouvé Gamelin, Paul Reynaud, tous ceux qui avaient marqué la Troisième République dans ses dernières années, et il raconte ça dans ses mémoires, et ils sont intéressantes. Et puis après, il a été transféré dans un hôtel de montagne, en Autriche, où il a été bien traité, il n'a d'ailleurs jamais été maltraité. Et on ne l'a pas mis dans un camp de concentration ou quelque chose de ce genre. Les retrouvailles ont été le plus simple du monde. Mon père avait été libéré par la première armée française, avec Delade de Tassigny, qui était le grand général de l'époque. Il y avait Leclerc et Delattre. Et il est arrivé à Paris, rapatrié par l'armée. Et je me souviens très bien de son arrivée dans notre hôtel particulier à rue du Hanelac, dans le 16e arrondissement. Et mon père était là. On savait qu'il allait être libéré, mais on ne savait pas quand il réapparaîtrait. Et donc, on a été quand même très surpris de le voir tout à coup, et d'ailleurs en très bonne forme physique. Mon père, après la guerre, a mis toute son énergie, toutes ses convictions à construire une nouvelle relation entre la France et l'Allemagne pour surtout ne pas retomber dans les ornières de l'avant-guerre. Et il a donc beaucoup poussé à ce que le régime d'occupation ne dure pas, à ce que l'Allemagne ne nourrisse pas de ressentiment durable à l'égard de la France. Et il a donc beaucoup participé aux côtés d'un homme qu'il connaissait bien et avec lequel il avait des relations étroites, qui était Robert Schuman, qui lui-même, comme Lorrain, parlait parfaitement l'allemand. Et c'est lui, Robert Schuman, il ne faut pas l'oublier, qui, avec Jean Monnet, a lancé le plan Poule, Acier, Charbon. Et au cours de ces années de construction de l'Europe, mon père était totalement d'avis que la construction européenne était la voie dans laquelle il fallait que la France s'engage. Il a donc fait tout ce qu'il a pu pour que ce soit le cas et de ce point de vue, il a été entendu et suivi. Je suis persuadé qu'il considérait la division de l'Allemagne comme quelque chose d'artificiel et qu'il aurait sûrement voulu que la France ne s'oppose pas à la réunification pour ne pas créer un fossé durable entre les deux pays.
Réception à l'Académie française.
C'est surtout le souvenir qu'il mesurait combien l'exercice était difficile et je dirais politiquement délicat. Faire l'éloge du maréchal Pétain à cette époque-là, c'était une sorte de gageur. Je me souviens que mon père avait préparé ça, il mesurait naturellement la difficulté de l'exercice et il avait travaillé pendant, je crois, 4 mois à préparer son intervention à l'Académie. Il avait fait des recherches historiques très complètes et son discours vaut d'être relu. C'est une espèce de chef-d'œuvre dans lequel il fait l'éloge du rôle du maréchal Pétain pendant la guerre, la Grande Guerre, la Première Guerre mondiale, où en effet le maréchal Pétain, qui n'était pas maréchal encore à l'époque, a joué un rôle important, et c'est lui en particulier, qui a remis de l'ordre dans l'armée à un moment, vers la fin de la Première Guerre mondiale, où il y avait en France, comme d'ailleurs ailleurs, je crois, dans l'armée allemande aussi, des mouvements de révolte, des soldats qui en avaient assez, et il ne faut pas oublier qu'à l'époque, on les envoyait à l'assaut dans des conditions de barbarie et de négligence des vies humaines qu'on ne pourrait pas imaginer aujourd'hui. Par conséquent, c'est le maréchal Pétain qui avait repris les choses en main et ramené l'armée dans l'obéissance. Mais donc mon père a consacré beaucoup de temps à développer la carrière du maréchal Pétain jusqu'au moment où cette carrière est devenue problématique, c'est-à-dire au moment de la collaboration avec l'Allemagne après la défaite française en 1940. Et c'est cet exercice, si j'ose dire, qui était conforme à la vérité historique, mais qui était un exercice qui comportait à la fois les louanges qu'on attend d'un nouvel arrivant à l'Académie française, et de l'autre, les critiques qu'il était difficile de ne pas formuler contre le rôle du maréchal pendant l'occupation et son rôle dans la collaboration avec l'Allemagne. C'est une espèce de chef-d'œuvre de l'analyse historique et d'une analyse équilibrée à un moment où il était difficile de l'être.
C'était un grand moment, enfin, pour sa famille. Il avait beaucoup de respect pour ses institutions.
C'était un Européen. Alors, être Européen, ça signifiait aussi vouloir la réconciliation franco-allemande, sans laquelle on ne peut pas imaginer de construction européenne. Ça veut dire être partisan de s'élever au-dessus de l'étroit égoïsme des souverainetés nationales. C'était dans cette ligne-là que s'inscrivait mon père, qui était un proche ami, qui était un confident de Robert Schuman, qui a été ministre d'Affaires étrangères. C'est d'ailleurs lui qui l'a, si je me souviens bien, nommé au commissaire en Allemagne. Et Robert Schuman, comme vous savez, parlait parfaitement l'allemand, puisqu'il était binational en quelque sorte. Et il avait avec mon père des affinités qui
probablement il n'avait avec pas beaucoup d'autres personnalités de la République.
Pour en savoir plus, donc je vous conseille de lire les ouvrages d'André-François Poncet, ainsi que les mémoires écrites par Jean-François Poncet et son fils, 37 Quai d'Orsay.